Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien printanier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'autrice Albéna Dimitrovin à propos de son roman L'or qui fait de l'or, paru aux éditions Intervalle. Bonjour Albéna Dimitrovin.
Bonjour Mathias Sénard.
Albéna Dimitrova, L'or qui fait de l'or est votre deuxième roman. Le premier, Nous dînerons en français, a été publié en 2015, est aujourd'hui disponible en poche aux mêmes éditions Intervalle. Presque 10 ans séparent Nous dînerons en français de L'or qui fait de l'or. Mais vous n'avez pas arrêté d'écrire pour autant. Vous avez publié plusieurs recueils de poèmes, au moins une pièce de théâtre et un essai assez fascinant intitulé Le goût bulgare, portrait de femme en Bulgarie. La Bulgarie, c'est votre pays d'origine, Albéna Dimitrova, celui que vous avez quitté pour vous installer en France à l'âge de 20 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que « pays d'origine », c'est une expression que vous employez? Comment est-ce que vous qualifiez intimement la Bulgarie maintenant?
Il est intimement lié à la France. Ma Bulgarie, elle devient une espèce de franco-Bulgarie qui renvoie toujours à la poésie des Balkans, à quelque chose d'insaisissable dans les récits du magique et de l'oral. La oralité reste l'origine bulgare en moi.
Albéna Dimitrova, L'or qui fait de l'or est un grand roman dans lequel on retrouve, pour qui vous connaît et vous a lu, votre générosité profondément humaniste, votre passion pour la langue française et aussi pour la science et le savoir. Albéna Dimitrova, le roman s'ouvre sur les aventures de deux jeunes femmes issues du même pays ou de la même ville, on ne sait pas trop, Volkova, quelque part en Europe de l'Est ou du Sud-Est. Pourquoi un pays inventé, Albéna Dimitrova, alors que le Paris où elles vont se rendre, lui, est bien réel?
Il est inventé, oui et non. Le premier clin d'œil, c'est celui à Hobbes et à ses camarades qui nous dit que l'homme est un loup pour l'homme. Et Volkova, ça veut dire le pays du loup. C'est ce petit clin d'œil de la langue slave que j'ai voulu garder secrète et que je révèle à vos auditeurs, Mathias.
Alors, le roman L'or qui fait de l'or s'ouvre sur la narratrice, Alina, c'est elle qui va nous raconter toute cette histoire. On la découvre enfant d'abord, née du père, Hydro, un ingénieur, qui a un rêve assez extraordinaire.
Il veut trouver un moyen pour reproduire la photosynthèse à une échelle industrielle. Exactement comme on produit du CO2 à une échelle industrielle. Donc c'est un doux rêveur, mais qui n'est pas complètement inventé, puisque des gens comme lui, des biologistes et des chercheurs, ça a beaucoup existé. Et déjà au milieu des années 60, ça a été vraiment une des vocations de la recherche, identifier comment rendre photosynthétique notre existence industrielle.
Alors Albéna Dimitrova, c'est un des aspects fascinants de L'or qui fait de l'or, c'est tout le rapport qu'il y a entre une réalité extrêmement concrète et les rêves qu'on peut tirer de celle-ci. Et notamment, le personnage du père Hydro représente bien ça, parce que le problème de cette question qu'il a résolu, on sait faire de l'oxygène à partir du carbone en reproduisant la photosynthèse des plantes. Le problème, c'est que ça demande des métaux qui ne s'oxydent pas et donc des quantités incroyables d'or.
D'or ou de métaux précieux. Et c'est tout le drame de Hydro, c'est qu'il souhaite trouver une façon prolétaire de la fabrication de la photosynthèse, à savoir prendre les métaux de bas étage et les hisser au niveau de l'or qui ne court pas l'eau. C'est son expression à lui.
Et donc Alina, la narratrice, sa fille, Alina qu'on appelle par tous ses diminutifs, Alina, Alinoshka, après Alia, elle va partir pour Paris, faire des études. D'abord, elle est extrêmement brillante. Elle commence l'université à peine 16 ans et elle va se spécialiser en mathématiques.
Puisque c'est un peu son domaine, elle s'intéresse à tout ce qui peut être amené à la vérification par, non pas le concret, mais par l'abstraction. Donc elle vit énormément dans un monde de philosophie abstraite pour servir la vie concrète. Mais elle est quand même très peu adaptée au monde extérieur en soi, et d'où son amitié qui lui permet de sortir un petit peu de son monde abstrait.
Et justement, son amie qui l'accompagne tout du long du roman, qui s'appelle Ludmila, mais qu'on appelle Luda, Elle est l'opposé, non, plutôt le complémentaire, on va dire, d'Alina, non? Un peu comme les deux aspects d'une même médaille. Ces deux amis vont pas se quitter, mais il y en a une qui est l'esprit, un peu, et l'autre qui va être le corps dans cette relation.
Je suis très contente que vous releviez cette relation des deux côtés d'une même pièce, on peut dire, d'or, puisque c'est en fait, pour moi, la complétude de tout ce qui est autorisé et non autorisé pour une jeune femme. Quand je dis non autorisé, les jeunes femmes, c'est extrêmement récent qu'elles se sentent autorisées d'aller dans les profondeurs de la science, et la science abstraite encore plus. Et ce n'est pas parce que les hommes ne les autorisent pas, c'est parce que les années qui ont permis à ces femmes d'intégrer ce genre de formation, et notamment la mathématique, ont été tellement habitées par des grands cerveaux masculins que peut-être il y avait une autocensure. Et là, par l'ignorance de Alina, elle est attirée juste dans son élan et amour de comprendre le monde par la mathématique. Et à côté de ça, il y a l'autre tabou qui est que la femme, la jeune femme belle, elle n'est pas un corps, elle a des formes. Tandis que l'homme, il a un corps, c'est un corps physique, un corps magnifié. Alors que la jeune femme, elle a des formes, elle doit être sublime dans ses façons de bouger. Et on voit ces deux amis qui rentrent en fait à travers les portes qui sont généralement fermées, en disant « non, moi j'ai un corps pour Luda ». Et l'autre dit « non, mais moi j'ai un cerveau qui est aussi légitime qu'à n'importe quel autre cerveau ».
Et ce cerveau, on va le voir à l'œuvre. L'or qui fait de l'or a la particularité que chaque chapitre est précédé d'une formule. Par exemple, j'en cite une au début du texte. À l'instant T de N moins 22 sur 2, il existe pour toutes sortes de N, que ce soit différent, de 22 sur 2, c'est-à-dire 11. Et on se demande, qu'est-ce que c'est que ces formules? Qu'est-ce qu'elles représentent à cet endroit-là?
Et ce chapitre que vous venez de citer démarre avec la narration à quel âge de la narratrice?
À 11 ans.
Exactement. Donc chaque formule dans ce livre n'est pas du tout juste une idée pour embêter les gens. Elle raconte quelque chose, une petite phrase. Dans la plupart des titres, ça indique l'âge de la narratrice au moment de l'histoire. Et dans d'autres parties, ça indique les urgences de bureau dans son travail dans le fonds de gestion. Et il n'y a que deux chapitres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui ne sont pas des formules, mais une constante, c'est une date, et la température en Celsius. Et j'aime beaucoup cette Celsius, surtout le chapitre de la température, puisque c'est tout ce que justement la mathématique ne peut pas ouvrir. C'est là où vous ne pouvez pas faire des allers-retours. Orphée a essayé, le pauvre, mais ça n'a pas fonctionné. Le corps a une température. Et une température, une chaleur humaine ou animale, ne peut pas être traitée comme un produit financier, même si on voit que dans le travail d'Alina, c'est un tout petit peu la façon de faire de ses collègues.
Et alors justement, à propos de ces formules, il y a peut-être quelque chose, une théorie là, qui est celle du moment de temps. Et vous écrivez, un moment de temps donne l'heure exacte de chaque temps crucial d'une vie, la survenue des uns dans une existence, sans indiquer à la personne le sens dans lequel les compter, ni l'ordre de leurs arrivées. Partager ensemble avec d'autres un même moment de temps produit en chacun une chose spécifique. Et là, on voit bien le monde d'Alina qui est cette adaptation tout simplement des lois ou des possibilités mathématiques à la réalité quotidienne.
Et après tout, quand on se plonge dans sa réflexion, puisque c'est elle qui fait la recherche de qu'est-ce que c'est que le temps puissant zéro, donc le 1, les 1 d'une vie, nous avons déjà la certitude d'en avoir au moins 2. La naissance et la mort. Mais je suis sûre que vous partagez avec moi l'idée que nous avons connu d'autres moments cruciaux dans notre existence et que ces moments prennent date d'une façon insidieuse et restent comme constitutifs de la nouvelle personne que nous sommes après ce moment-là. Et il est vrai que ni la naissance, ni la mort, ni les autres moments uniques dans votre vie ne puisse être véritablement partagé avec quelqu'un d'autre. C'est notre condamnation à la solitude. Et c'est pour ça que nous avons besoin des autres et on n'arrête pas de leur raconter ces moments uniques.
Mais d'ailleurs, le moment de la mort, c'est plutôt plus l'infini dans le livre. On n'y parvient pas vraiment. On l'approche, mais
on ne
peut pas
beaucoup.
Le sortir. Oui, on aimerait beaucoup que ça ne vienne jamais. Et Alina commence, alors qu'elle a 22 ans, donc après ses études de mathématiques, dans son métier, qui est ce qui va nous occuper pour le cœur du roman, qui est un bureau tout à fait spécial, dans lequel elle va s'intéresser justement à fabriquer tout simplement de l'argent avec le temps.
Oui. Vous venez de décrire la finance déjà. Et à côté de la finance, il y a un autre miracle quand même dans nos histoires d'humains. Et pour moi, un de ces miracles, c'est vraiment la monnaie. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de l'or, ni du blé, mais la monnaie. La monnaie, quand on y pense, c'est une invention incroyable, presque divine. D'ailleurs, elle a démarré son existence avec le divin. Il a fallu des siècles de monnaie qui porte l'effigie d'un roi, donc qui est lié directement avec la divinité, pour qu'on puisse tout simplement se fier à une espèce de bout de papier ou à une pièce qui, la plupart du temps d'ailleurs, n'est pas faite en or. Et ça, cette abstraction-là, cette monnaie-là, aujourd'hui, nous montre à quel point il y a des pouvoirs magiques dans cette création purement humaine et à quel point nous sous-exploitons ces pouvoirs magiques de la monnaie.
Alors justement, cette monnaie, elle a un rapport avec l'or, donc elle a un rapport aussi avec l'enfance, ou en tout cas ce coffre plein de lingots qu'utilise le père d'Alina pour ses expériences, mais aussi aujourd'hui et dans la vie d'Alina, l'or a disparu. Disons que la monétisation ne se rattache plus à l'or depuis le début du XXe siècle. Donc c'est une autre dimension monétaire, celle d'Alina.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai cherché vraiment à lui offrir un produit financier digne de sa philosophie à elle. Et je crois que j'ai bien fait de trouver le ticket restaurant, qui est un minuscule produit financier et qui, pour moi, est une forme de monnaie qui va directement dans le ventre. Ah, là
ça,
où
c'est
elle
absolument passionnant parce que elle a une idée absolument magnifique et qui est un peu le fil conducteur du roman autour de ces tickets restaurants. Et c'est vrai, quand on y pense, il y a tout. C'est-à-dire que c'est de l'argent, mais on a confiance parce que c'est son employeur qui vous les donne. Enfin bref, il y a toute une série de rapports qui se fabriquent autour de ces titres en réalité. Et comment vous avez eu cette idée?
Ah, j'ai beaucoup cherché. C'était très difficile de trouver vraiment quelque chose qui soit rigoureusement vrai d'un point de vue technique, côté financier et bancaire, et qui en même temps soit quelque chose qui dépasse la préoccupation des loups de Wall Street. Ce n'est pas du tout ce produit financier. Et donc le ticket restaurant, ça a été un long chemin pour le trouver, mais une fois que l'idée a émergé, c'est ça qui est superbe avec les bonnes idées, je pense, c'est que ça se déployait à des dimensions tellement multiples, à la fois pour permettre de s'interroger, mais qu'est-ce que c'est que la monnaie? Qui compte la monnaie? Comment on la crée? Ça, c'est un vrai miracle. On ne se rend pas compte, on ne se pose pas la question. Le ticket restaurant, on le prend tout simplement comme une donnée sociale, alors que ce n'est pas une donnée sociale. On le voit d'ailleurs dans sa discussion avec le patron de l'institution de réglementation des tickets restaurants, puisque c'est vrai, ce sont des choses extrêmement réglementées. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qu'on pourrait peut-être se poser à travers la poésie d'un ticket restaurant qui passe de main en main, qui reste dans des tiroirs, qui peut générer un peu d'or supplémentaire, en plus
des sandwichs.
Oui, parce
que c'est ça qui est fascinant, voilà. C'est que l'idée d'Alina dans le livre, c'est de fabriquer de l'argent à partir de ces tickets restaurants. C'est-à-dire de les utiliser non pas uniquement comme une monnaie, on pourrait dire, mais réellement comme un outil financier pour fabriquer de l'argent.
Et là, il faut rendre hommage quand même à son patron, qui est assez énigmatique, Mike Ward, puisque c'est lui qui la charge, dès le premier entretien d'embauche, de s'intéresser de près à ce dossier qui, a priori, ne devrait pas intéresser les grands hedge funds qui génèrent énormément de plus-value. On ne s'y attend pas qu'ils se préoccupent de l'histoire de tickets restaurants. Et donc, justement, pour moi, ça a été très intéressant de suivre cette dynamique, puisque quand le cerveau humain se tourne vers un objectif, que ce soit une création artistique ou une création financière qui aussi demande de l'art, on voit l'ingéniosité du cerveau humain. Il est capable d'extraire n'importe quel jus ou sirop vital à partir de n'importe quelle matière. Et le plus drôle pour moi, c'est que Hydro, qui, cela dit en passant, est aussi un hommage aux Lumières, puisque Hydro, c'est le copain de Diderot, tout comme l'apprentissage de la langue par Alina passe par Rousseau et par ses lettres botaniques. Tout est extrêmement lié à notre relation et confiance dans notre capacité d'inventer le monde dans lequel on vit. Et la finance fait partie un petit peu des tabous aussi de discussion des passionnés, puisqu'on l'associe toujours avec une sorte de les riches et les pas riches. Et en fait, la monnaie est beaucoup plus puissante que les histoires de riches ou pas riches. Vous pouvez être dans une société où il n'y a pas de monnaie, et il y aura toujours quelqu'un qui irait s'emparer de la source d'eau ou de la source de quelque chose pour dominer le reste du monde. Mais la monnaie, ce n'est pas ça. La monnaie, c'est presque la naissance de la démocratie. Et d'ailleurs, on le voit que dans n'importe quel régime dictatorial, personne n'a confiance dans la monnaie. C'est-à-dire que la société doit vivre ensemble avec une certaine idée d'elle-même et avec une certaine confiance dans l'autre pour que la monnaie puisse être forte. Et Poutine ou Staline n'ont jamais connu des monnaies que tout le monde désire avoir. On peut se demander pourquoi.
Almena Dimitrova, à la fin de L'or qui fait de l'or, dans les remerciements, on se rend compte à quel point cette enquête est tout à fait réelle, puisqu'il y a quand même une liste, vous dites, de 40 personnes que vous avez interrogées, des directeurs financiers, le directeur du FMI lui-même. Enfin, c'est tout un roman réaliste.
Oui, c'est un roman réaliste, oui. Puisque, en tout cas, rien n'est inventé et tiré par les cheveux pour servir et amuser la galerie. En revanche, ce qui est très important, en tout cas pour moi, en écrivant ce livre, la nécessité était vraiment profonde en moi de pouvoir faire de la poésie avec cette relation intime qui relie les gens qui se connaissent pas et qui n'est pas un réseau social, mais qui est une confiance sociale, une maîtrise sociale très importante qui est la monnaie.
Oui, parce que justement, le travail d'Alina sur les tickets restaurants l'amène à rencontrer, par exemple, les directeurs de la sécurité sociale, enfin, énormément de personnes qui sont dans l'entourage monétaire, en réalité, de cette petite chose à laquelle on ne pense pas qu'est le ticket restaurant.
Et oui, et à chaque rencontre, à chaque discussion avec ses responsables, Alina reste dans la poésie de son sujet. Elle n'est jamais dans la réglementation du sujet, elle reste toujours dans un degré de poésie qui est nourri par sa mathématique, parce qu'elle a un rapport poétique à la mathématique, pour ramener tout simplement ça à des relations humaines qui finissent en fait par provoquer des émotions, alors que normalement, une transaction monétaire ne devrait pas provoquer d'émotions. Et pourtant, on le voit bien qu'il y a une émotion à chaque geste envers la monnaie.
Une émotion, oui, évidemment, qu'elle soit le plaisir de la posséder, la détresse de ne pas en avoir.
L'angoisse
de l'obtenir, oui. Et tout ça. Mais ça correspond aussi à l'intérieur du travail d'Alina, dans cette société, ou sa partie de cette société, à une forme d'adrénaline liée tout simplement au fait de gagner de l'argent aussi. Il y a ce plaisir, cette recherche du gain, c'est-à-dire de faire de l'or, en réalité, qui motive tous les gens qui sont là.
Et ça, c'est quelque chose que j'interroge tout le temps, parce que, d'une certaine manière, j'ai grandi dans un pays sans la Vierge Marie et sans le gain pécunier. Quand vous grandissez dans un pays communiste, vous avez beaucoup de choses à apprendre et à affronter, mais pas l'appétit pécunier et pas la Vierge Marie. Donc, quand on arrive, effectivement, sur le tard, sur ces sujets-là, eh bien, je continue encore aujourd'hui, en tant qu'intellectuelle et écrivaine, à m'interroger sur « mais comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui puissent encore se lever tous les matins et être complètement d'attaque pour faire quoi ?» Bah, pour cumuler encore un peu plus d'argent. Et c'est vrai que ça m'interroge énormément. Et j'ai pas de réponse, mais c'est vrai que tout le long du roman, Alina s'interroge « mais qu'est-ce qui motive Mike Ward ?» Elle comprend ses collègues à peu près ce qui ça peut les motiver pour gagner un poste, avoir un gros chèque à la fin du mois, etc. Mais Mike Ward, Pourquoi vient-il à son bureau? Pourquoi s'acharne-t-il avec autant d'intelligence, puisque c'est quand même un type brillant? Comment se fait-il qu'il ait autant d'énergie pour faire cette chose si peu joyeuse qui est de gagner juste un peu plus d'argent? Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse claire sur ce sujet. En tout cas, je ne l'ai pas.
On voit quand même dans le roman qu'il y a d'abord un effet de milieu. C'est-à-dire que ces fameux cols blancs, comme vous les appelez dans le roman et comme on les appelait autrefois, se regardent les uns les autres. Et donc, il y a aussi une espèce de compétition qui fabrique une émulation, qui fabrique la volonté, le désir d'être les premiers, les meilleurs, tout le temps. Et ça, ça se transporte aussi sur le terrain, tout simplement, de l'argent.
Mais c'est comme une espèce de monothéisme de la pensée érectile. Vous devez toujours vous ériger et vous augmenter si possible. Et aujourd'hui, il me semble que c'est intéressant de s'arrêter de ce compte sur ça et voir que ça va à la mort, puisqu'on détruit la planète, on détruit le lieu de nos relations, d'une certaine manière, puisque ça dégrade l'échange émotionnel de la relation. Et on le voit avec la triste évolution de l'amitié entre Luda et Alina. Quelle douleur, toute cette chose jouissive, réussit de gagner un argent incroyable à Alina, et finalement, quelque chose se délite complètement.
Mais justement, il faut parler de l'autre côté de la médaille, qui est Luda, qui est un personnage extraordinaire, qui devient au fil du roman un top modèle de plus en plus célèbre, et qui, elle, investit et gagne de l'argent, mais uniquement en se présentant. C'est-à-dire, c'est son corps et ce qu'elle porte sur elle-même dans les défilés de mode qui la rend riche et célèbre.
Ce qui est étonnant, c'est que Luda, finalement, cette top modèle, cette beauté incroyable, est finalement peut-être la plus lucide de tous les personnages dans ce roman, puisqu'elle ne se fait quasiment jamais d'illusions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir déjà le dédain avec lequel elle traite son propre métier qui lui apporte de l'argent, et elle aime l'argent, c'est de dire « moi je suis juste censée porter ce que d'autres sont censés désirer ». Point à la ligne. Et donc, quel est l'idéal, quel est le rêve de Luda? Je pense que justement, dans Luda, il y a ce mystérieux besoin de se rassurer matériellement pour pouvoir s'autoriser émotionnellement à vivre des expériences autres que ce qu'on attend d'elle.
Et là aussi, est-ce qu'il y a une enquête dans le côté Luda? Est-ce que vous avez enquêté justement auprès de top modèles, de mannequins et dans le milieu de la mode?
Ah, complètement. Déjà, étant toute adolescente, encore une fois dans les pays de l'Est, je rappelle, sous les régimes communistes, la publicité n'avait pas du tout la même allure que maintenant. Et donc, on nous faisait recruter. Moi-même, j'ai participé à des revues de mode pour des baskets hongroises, parce qu'il faut savoir que la basket hongroise était quelque chose d'assez inatteignable. C'est le plus Nike des pays de l'Est. Et donc voilà, le parti avait besoin de faire la joie de la consommation. Il n'y avait pas de raison que ce soit uniquement les capitalistes qui pouvaient s'offrir ces joies-là, et ils recrutaient comme ça des gens lycéennes ou en collège pour faire des journées de tournage, de publicité. Et là, effectivement, j'ai croisé des top modèles. C'est vrai que ce sont des filles, mais incroyablement belles. Et je voyais cette espèce de... Je pense qu'elle me faisait penser beaucoup plus à des sportifs de haut niveau qu'à des langoureuses créatures, comme on pourrait imaginer Melania Trump et autres. C'était vraiment des espèces de battantes physiques incroyables. Et la beauté là-dedans a été mise à nu d'une façon assez cruelle, à vrai dire.
Almena Dimitrova, quelle différence y a-t-il entre valoir de l'or et faire de l'or? C'est-à-dire, c'est toute la question que pose Luda. Qu'est-ce qui fait qu'on ait une valeur? Le corps vaut ceci, on la paye tant dans un défilé de mode, elle rapporte tant, mais justement une différence entre ce qu'elle peut valoir et ce qu'elle vaut réellement. Et ça, c'est tout l'espace dans lequel se meut justement Alina. C'est un peu la disons ce qui les rapproche en quelque sorte, non, cet espace entre la valeur et la possibilité du gain.
C'est exactement cette question et c'est là-dessus que j'attire encore l'attention sur le poétique de cette relation parce qu'elle est à la fois insoluble et à la fois assez simple. Oui, le corps peut se vendre. Oui, on peut vendre, y compris le repas d'un employé de base tous les jours. On peut faire de l'argent avec son repas, sans préparer le repas. C'est ça qui est encore plus extraordinaire. Et en même temps, est-ce que les êtres et le vivant sont à vendre ? Et toute la problématique aujourd'hui que nous ayons avec le vivant et la biodiversité qui s'écrase, et on est sans arrêt tiraillé de est-ce qu'on va valoriser un arbre et dire un arbre ça coûte tant ? Dans ce cas-là, on transforme l'arbre en autre chose. Ou est-ce qu'on va résister à cette quantification de la vie et on va essayer de trouver d'autres façons de rééquilibrer nos rapports avec le valoir et gagner.
Pour le moment, on va plutôt dans le sens de il est plus simple de donner une valeur aux choses pour savoir combien ça coûte de les détruire en réalité et donc combien vous devez payer si vous les détruisez. C'est un peu le raisonnement actuel en matière d'environnement.
Et vous êtes d'accord que là-dessus, il y a zéro poésie. Or, c'est la poésie qui sauve en fait l'être humain en tant qu'être humain et qui le fait pousser un peu plus en avant. C'est pas l'argent.
Bah, si on admet qu'il y a une poésie dans l'argent, comme vous le faites, ou en tout cas dans justement cet écart entre la valeur et le gain, peut-être justement là, il y aurait une poésie infinie qui pourrait tout d'un coup naître de la possibilité de donner une valeur aux choses.
Mais des gens, des chercheurs déjà très poussés en économie ont déjà identifié cette magie-là. Ça s'appelle la monnaie volontaire, ça s'appelle la monnaie verte, ça s'appelle cette façon de créer des relations de valeur entre nous qui n'ont pas l'examen de la Bourse de Paris ou des CAC 40, mais qui ont l'examen de est-ce que c'est viable ou non viable. Et je vous promets que lorsque vous faites quelque chose et vous vous posez juste la question est-ce que je crée plus de vie ou plus de mort, c'est un superbe critère pour garder la poésie de la vie.
Merci, merci beaucoup Albena Dimitrova de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire « L'or qui fait de l'or » est paru aux éditions Intervalle. Cette émission était réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Guillaume Ficheux à la technique aujourd'hui. La préparation était assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter ou podcaster les émissions de l'entretien littéraire sur l'appli de Radio France ou le site de France Culture.